Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Et encore une fois, une excellente année, en excellente nouvelle année en Jésus. Et avant de considérer notre étude ce matin, je vous inviterai à prier avec moi et afin de demander à notre Dieu d'ouvrir notre compréhension à ce que nous allons voir, de nous disposer à accepter. Ceci ou tout cela, en fait, à accepter. Alors, prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce doux privilège que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler pour étudier ta parole. Nous avons besoin que tu nous instruises. Nous avons besoin que tu nous éclaires. Mais aussi que tu nous apportes la conviction. Notre Père Céleste, merci de nous envoyer le Consolateur. Merci de nous envoyer ton Esprit, afin que ces choses puissent être en nous. Ce sont là les grâces que nous t'avons demandées, au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils. Amen. Le texte de base de l'étude du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 12, et au verset 30. Rendons-nous dans Matthieu, chapitre 12, et considérons le verset 30 de ce chapitre. Matthieu, chapitre 12, et considérons le verset 30 de ce chapitre, où Jésus déclara, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Que voulait dire Jésus ici? Simplement ce qu'il déclara. Quand je ne suis pas d'accord avec Jésus, quand je ne marche pas derrière Jésus, quand je n'ai pas Jésus au final, je suis alors contre Jésus. Et mes amis, voyez-vous, ce premier enseignement du verset 30 du chapitre 12 de Matthieu ne devrait pas poser problème. C'est quelque chose qui devrait paraître logique et que la majorité est censée comprendre et accepter. En revanche, le second enseignement du verset 30 du chapitre 12 de Matthieu, qui lui est une amplification du premier enseignement, mais cet enseignement-là, le second, il fait rapidement la lumière sur celui qui est contre Christ. C'est-à-dire que quand je n'assemble pas avec Jésus, ce qui peut être compris par le fait que je ne fais rien pour assembler. Je suis inactif. Je suis oisif, tout simplement. Mais aussi, quand je ne collecte pas avec Jésus, en accord avec Jésus, selon les plans de Jésus, je suis alors celui qui œuvre pour disperser, pour éparpiller, pour gâcher, pour dévaster et anéantir l'œuvre de Jésus. C'est pour cela qu'une telle œuvre, mes amis, manifeste que celui qui en est l'auteur n'est pas avec Jésus. Et si nous désirons sincèrement savoir si nous assemblons avec Christ, le second enseignement du verset 30 du chapitre 12 de Matthieu est un excellent test. Mais je tiens maintenant à attirer votre attention sur un point, un détail qui est commun aux deux enseignements de ce verset. Remarquez que Jésus ne dit pas « Celui qui est pour moi est contre moi » et « Celui qui n'assemble pas pour moi disperse ». Ce n'est pas cela que Jésus dit. Non. Mais il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi » et « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Je peux prétendre être pour Jésus, c'est-à-dire prétendre aimer Jésus, mais en réalité, ne pas être avec Jésus. Je peux également prétendre assembler pour Jésus, c'est-à-dire travailler pour Jésus, mais ne pas assembler avec Jésus. Et mes amis, voici le détail qui fait toute la différence. Voici le détail qui déterminera si je suis avec Jésus, si je suis un disciple de Jésus, quelqu'un qui suit Jésus. Voici le détail qui fait toute la différence. Soit on est pour, soit on est avec. Le avec inclut le pour, mais il va plus loin que le pour. Ça implique une consécration totale. Ça implique une adhésion totale, mes amis. Mais quelque temps après, la Bible nous rapporte les paroles de Jean qui lesquels manifestent la compréhension que les disciples eurent de cet enseignement. Et nous pouvons trouver ces paroles en Luc, chapitre 9. Rendons-nous dans Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Et considérons les versets 49 et 50. Luc, chapitre 9, et considérons les versets 49 et 50, où il est dit, « Et Jean, prenant la parole, dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne l'empêchez point, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et cet événement nous est également rapporté en Marc, chapitre 9. Rendons-nous dans Marc, maintenant, chapitre 9, et considérons les versets 38 à 40. Marc, chapitre 9, versets 38 à 40. Marc, chapitre 9, versets 38 à 40, où il est dit, « Alors Jean, prenant la parole, lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom, et qui ne nous suit pas, et nous nous y sommes opposés, parce qu'il ne nous suit pas. Mais Jésus dit, ne vous y opposez point, car il n'y a personne qui fasse de miracles en mon nom et qui puisse aussitôt parler mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. En faisant référence à ce chasseur de démons, Jésus déclara, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Attendez une minute, mes amis. En Matthieu 12, verset 30, Jésus déclara, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Or, ce chasseur de démons que les disciples ont rencontré plus tard n'était ni avec Jésus, ni avec ses disciples. Et pourtant, Jésus déclare qu'il n'était pas contre eux, mais pour eux. Comment comprendre cela? Comment accorder cet enseignement avec celui de Matthieu 12, verset 30? Nous avons ici besoin de l'Esprit de l'agneau de Dieu pour comprendre cela. La pensée que les disciples attribuèrent aux paroles de Jésus en Matthieu 12, verset 30, était celle des pharisiens. La pensée qu'ils avaient était une pensée pharisaïque. Ils manifestèrent là, mes amis, un esprit d'intolérance. Le fait que les disciples ne connaissaient pas ce chasseur de démons prouve que ce dernier ne partageait pas à ce moment-là, la foi de Jésus, son enseignement, sa vie, il ne le suivait pas. Et mes amis, lorsque vous ne partagez pas la foi de Jésus, n'êtes-vous pas une âme à gagner? Certainement. Certainement, vous êtes une âme à gagner. Et c'est comme tel que l'Église devrait vous considérer. Mais plutôt que de traiter cet homme, ce chasseur de démons, qui œuvre pour Christ, mais qui ne connaît pas Christ, plutôt que de le traiter tel une âme à gagner à Christ, plutôt que de lui présenter la foi de Jésus en le conduisant à Christ, afin qu'il devienne lui aussi l'un de ses disciples, les apôtres le traitèrent comme l'un de ses ennemis. Et voilà pourquoi Jésus leur fit comprendre ensuite qu'à cette occasion, ils avaient été pour cet homme une pierre d'achoppement. Mes amis, lorsque nous rencontrons une âme qui manifeste ne pas connaître la vérité et qui cependant pense œuvrer pour Jésus, ne la traitons pas d'emblée tel un ennemi de la foi, car il se pourrait bien que cette âme, il se pourrait bien qu'elle n'ait jamais entendu parler de la vérité présente. Mais au contraire, nous devrions, avec des liens d'amitié, tâcher de lui présenter la vérité qu'elle ne connaît pas. Car qui sait, mes amis, si nous ne gagnerons pas cette âme à la vérité? Vérité pour laquelle elle œuvrera lorsqu'elle connaîtra le Christ. Vérité pour laquelle elle œuvrera avec le même zèle pour lesquelles elle œuvre à présent pour l'avancement de l'erreur. Car oui, mes amis, oui, pour l'avancement de l'erreur. Et c'est là que l'équilibre se fait. Car cette âme que nous rencontrerons, tout comme le chasseur de démons que les disciples ont rencontré, bien qu'elle soit potentiellement pour Christ, n'est toutefois pas en l'état avec Christ. Et ce, notamment du fait qu'elle n'assemble pas avec Christ, lequel assemble par son Église. Et bien que Jésus réprima l'esprit d'intolérance de ses disciples, notez qu'il ne leur a jamais laissé entendre que ce chasseur de démons était en l'état avec lui ou qu'il assemblait avec lui. Jamais Jésus n'a dit cela ou n'a laissé entendre cela. Bien qu'il s'était opposé à l'esprit d'intolérance de ses disciples. Cependant, il n'a jamais dit cela. Et il ne l'aura jamais laissé entendre cela. Vous notez cela. Alors voici l'équilibre des propos de Jésus. Et notez également, mes amis, que dans Luc 9, ainsi que dans Marc 9, Jésus ne dit pas « avec moi ». Mais il dit « avec nous » cette fois-ci. Le « moi » est inclus dans le « nous ». Et pourquoi cela? Pourquoi le « nous » Qui est le « nous » Parce que les hommes ordonnés par Jésus pour porter la vérité étaient dépositaires de son autorité et s'identifiaient Jésus, et donc de ce fait, Jésus s'identifiait à eux. Ainsi, ne pas assembler avec eux, ne pas assembler, ne pas collecter, travailler avec les hommes choisis de Dieu, revient à ne pas assembler avec Christ. Et saisir cette équilibre dans les propos de Jésus est une chose importante, mes amis. Car, faute de ne l'avoir pas saisi, des croyants sincères ont été conduits par des bergers aveugles à pratiquer l'œcuménisme. Mes amis, quand l'Église pratique l'échange de chair, quand elle œuvre avec des incroyants qui ne partagent pas la foi de Jésus, il s'agit là d'œcuménisme. Mais revenons à notre application de Matthieu 12, verset 30. L'âme qui œuvre au nom, l'âme qui œuvre au nom du Christ, mais qui, faute d'avoir été, de ne pas avoir été instruit concernant Jésus, et qui, de ce fait, ignore la foi de Jésus, ainsi que l'autorité de son Église. Cette âme-là n'est que potentiellement concernée par les paroles de Jésus, disant, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi dissipe. » Et cependant, elle sera pleinement concernée par ses paroles si et seulement si, après avoir été instruite à l'égard de la foi de Jésus, elle se met à ignorer celle-ci ainsi que l'autorité de ceux que que Christ, ses choisis. Et maintenant, nous allons considérer quelques profils. Nous allons maintenant considérer quelques exemples que l'Écriture nous donne pour nous aider à comprendre ce que signifie en profondeur ne pas être avec Christ, ne pas assembler avec Christ. Et bien évidemment, nous comprendrons l'opposé à chaque fois, à savoir ce qu'est être avec Christ et ce qu'est le fait d'assembler avec Christ. Commençons cet examen en Josué, chapitre 6, versets 18 et 17, et lisons après tout le chapitre 7. Josué, qui est juste après Deutéronome, Josué, chapitre 6, versets 17 et 18, et ensuite, nous lirons le chapitre 7 dans son entièreté. Ok, lisons Josué, chapitre 6, versets 17 et 18. La ville sera vouée à l'interdit. Alors, je reprends. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qu'elle contient. Rahab, la courtisane, vivra. Elle seule et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous de l'interdit, de peur que, après avoir dévoué la ville, vous ne preniez de l'interdit, que vous ne mettiez le camp d'Israël en interdit et que vous n'y jetiez le trouble. Donc ici, c'est la partie de ce chapitre-là, chapitre 6, que nous considérons pour comprendre l'ordre que l'Éternel avait donné, ok, concernant la prise de Jéricho. Ok. Et maintenant, donc, considérons maintenant l'ensemble du chapitre 7 pour voir qu'est-ce qui avait été fait suite à cet ordre qui avait été donné. Prenons à partir du verset 1er et lisons l'ensemble du chapitre. Cependant, les enfants d'Israël commirent un grand péché au sujet de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit de l'interdit et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Haven, à l'orient de Bethel, et leur parla en disant, « Montez et explorez le pays. » Ces hommes montèrent donc et explorèrent Aï. Puis ils revinrent vers Josué et lui dirent, « Que tout le peuple n'y monte point, et qu'environ 2 ou 3 000 hommes y montent, et ils battront Aï. Ne fatigue pas là tout le peuple, car ils sont peu nombreux. » Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent donc, mais ils s'enfuirent devant les gens d'Aï. Et les gens d'Aï en tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Et le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Et Josué déchira ses vêtements et tomba le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Et Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains de l'Amoréen, pour nous faire périr? Oh, que nous n'avons pris le parti de demeurer au-delà du Jourdain. Hélas, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont. Ils retrancheront notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? » Alors l'Éternel dit à Josué,
Lève-toi. Pourquoi es-tu ainsi étendu le visage contre terre? Israël a péché. Ils ont même transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Et ils ont pris de l'interdit. Ils en ont dérobé et ont menti. Et ils l'ont mis dans leur bagage. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront pas subsister devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tombés en interdit. Je ne serai plus avec vous si vous n'exterminez l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, et dis, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, ô Israël. Tu ne pourras pas subsister devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez donc le matin selon vos tribus, et la tribu que l'Éternel saisira s'approchera par famille, et la famille que l'Éternel saisira s'approchera par maison, et la maison que l'Éternel saisira s'approchera par homme, et celui qui aura été saisi ayant de l'interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui est à lui, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Josué se leva donc de bon matin et fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut saisie. Puis il fit approcher les familles de Juda et la famille des descendants de Zérach fut saisie. Puis il fit approcher la famille des descendants de Zérach par homme et Zabdi fut saisie. Et il fit approcher sa famille par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut saisi. Alors Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi, je te prie, ce que tu as fait, ne me le cache point. » Et Akan répondit à Josué et dit, « C'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, et 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et pris. Et voici, ces choses sont cachées dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Alors Josué envoya des messagers qui coururent à la tente. Et voici, le manteau était caché dans sa tente et l'argent était dessous. Ils les prirent donc du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Alors Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs et ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui était à lui. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Et Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tous les Israélites l'assommèrent de pierres. Ils les brûlèrent au feu et ils les lapidèrent. Et ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres qui a subsisté jusqu'à ce jour. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi on a nommé ce lieu-là la vallée d'Akor du trouble jusqu'à ce jour. La méthode de combat ainsi que les conditions de la victoire furent clairement exposées à Israël dans les versets que nous avons vus au chapitre 6. Mais en raison du fait qu'un homme assembla, prit des choses, sans égard pour les conditions, pour l'alliance qui avait été faite et qui avait été établie entre Dieu et son peuple pour remporter la victoire. La nation tout entière, mes amis, fut troublée lors de la bataille suivante. Ce que nous voyons dans les premiers versets du chapitre 7. Et après que Josué eut exprimé son désarroi à l'Éternel, celui-ci fit savoir à son serviteur Josué, du verset 10 à 12, et je vais vous paraphraser ce que l'Éternel a dit à Josué du verset 10 à 12. Il a dit à Josué, du verset 10 à 12 de Josué chapitre 7, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » C'est Matthieu 12, verset 30. Telle était la pensée que Dieu voulait communiquer à Josué du verset 10 à 12 de Josué chapitre 7. C'était Matthieu 12, verset 30. Ainsi, mes amis, Matthieu 12, verset 30 concerne l'âme qui œuvre au nom du Christ et qui, malgré la connaissance de la vérité, malgré la connaissance de la volonté de Dieu, continue à mépriser la parole de Dieu. Ainsi, Achan est le type des croyants qui approuvent ou exécutent les décisions qu'ils savent ne pas être en harmonie avec la vérité. Achan est aussi le type des croyants qui, en apparence, servent Dieu, mais dont le moi est mêlé à tout ce qu'ils font. Et Achan est également le type des croyants qui, en parole, en action, en esprit, dans leur vie domestique, dans les gestions d'affaires séculières et les relations ecclésiales, se révèlent être des chrétiens non consacrés et qui, de ce fait, exercent une influence plus nuisible que les pécheurs déclaré. Voilà de qui Achan est le type. Voilà les personnes qui ont pour type Achan. Et ces personnes, mes amis, n'assemblent pas avec Christ, en accord avec Christ. Et elles sont de ce fait contre Christ. Considérons maintenant un deuxième profil, en Juges, chapitre 5. Rendons-nous quelques pages plus loin dans Juges, chapitre 5. Et il s'agit là du cantique de Déborah, lequel est un rapport du déroulement des faits qui eut lieu, qui se produisirent en Israël un peu plus tôt. Et commençons notre lecture à partir du verset 1er. Et prêtons attention, lors de notre lecture, aux bénédictions ainsi qu'à la malédiction. Alors lisons à partir du verset 1er. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam, en disant « Bénissez l'Éternel de ce que les chefs ont pris le commandement en Israël, de ce que le peuple s'est porté de plein gré au combat. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. C'est moi qui chanterai à l'Éternel, qui psalmodierai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et, ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'écoulèrent devant l'Éternel et le Sinaï même devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au jour de Shamgar, fils d'Anaph, au jour de Jaël, les routes étaient abandonnées et les voyageurs allaient par des chemins détournés. Les chefs manquaient en Israël, ils manquaient jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. Israël choisissait-il des dieux nouveaux? Aussitôt, la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui furent de bonne volonté. Bénissez l'Éternel, vous qui montez sur des ânesses blanches, qui êtes assis sous des tapis, et vous qui parcourez les chemins, chantez à la voix des archers, entre les sources où l'on puise, qu'on célèbre la justice de l'Éternel, la justice de ses chefs en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique. Lève-toi, Barak. Et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors, un débris du peuple l'emporta et sur les puissants. L'Éternel me fit triompher des plus forts. D'Éphraïm sont venus les habitants d'Amalek. À la suite, Benjamin marchait parmi tes peuples. De Makir sont descendus les chefs de Zabulon, ceux qui portent le bâton de l'écrivain. Et les chefs d'Issacar furent avec Déborah. Et Issacar suivit Barak et fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les contestations dans les cœurs. Pourquoi es-tu demeuré au milieu des étables à entendre le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les contestations dans les cœurs. Galaad, au-delà du Jourdain, resta dans sa demeure. Et Dan, pourquoi s'est-il tenu sur ses navires? Aser s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses havres. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, ainsi que Nephtali sur les hauteurs de la plaine. Les rois viennent, ils combattent. Ils combattent les rois de Canaan, à Taanach, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportent ni butin ni argent. Des cieux en combat, même de leur sentier, les étoiles combattent contre Sisra. Le torrent de Kisson les entraîne, le torrent ancien, le torrent de Kisson. Mon âme foule aux pieds leur force. Alors les sabots des chevaux retentirent par la course rapide de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont point venus au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel avec les vaillants. Qu'elle soit bénie entre les femmes, Jaël, femme de Héber, le Kénien. Qu'elle soit bénie entre les femmes qui habitent sous la tente. Sisera demande de l'eau, elle lui donne du lait. Dans la coupe d'honneur, elle lui présente de la crème. Sa main saisit le clou et sa droite le marteau d'ouvrier. Elle frappe Sisera et lui fend la tête. Elle fracasse et transperce sa tempe. Il se courbe, il tombe et ses pieds. Il tombe à ses pieds et se couche. Il se courbe et tombe à ses pieds. Et là où il se courbe, il tombe écrasé. La mère de Sisera regarde par la fenêtre et s'écrie à travers le treillis. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? Et les plus sages d'entre ces femmes qui répondent, et elle aussi se le dit à elle-même, n'ont-ils pas trouvé du butin? Ne le partagent-ils pas? Une fille, deux filles, par tête de guerrier, le butin des vêtements de couleur pour Sisera, le butin des vêtements de couleur brodés, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés, pour le clou du vainqueur. Périsse ainsi, ô Éternel, tous tes ennemis, et que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il paraît en sa force. Puis le pays fut en repos 40 ans. Nous avons bien prêté attention aux bénédictions ainsi qu'à la malédiction, comme je vous l'avais demandé. Et vous avez constaté que les bénédictions sont données à un certain type de personne. Mais que la malédiction est donnée aussi à un certain type de personne. Maudissez Méroz. Maudissez, maudissez ses habitants. Voici quelle est la malédiction de ce chapitre. Mes amis, qui est-ce qui demanda de maudire Méroz? La réponse se trouve dans le texte. Verset 23. C'est l'ange de l'Éternel qui a demandé cela. Qui est l'ange de l'Éternel? Jésus-Christ. Mais que fit Méroz pour
mériter cette malédiction.
Rien. Mais Rose ne fit rien. Alors pourquoi, puisqu'il ne fit rien, pourquoi Mérose devrait-il être maudit?
Parce qu'il ne fit rien. C'est parce qu'il n'a rien fait. Alors que Israël avait besoin d'aide. Il n'a rien fait.
Les habitants de Mérose n'ont rien fait. La ville de Mérose, ainsi que ses habitants, n'ont rien fait.
Et donc, la question est logique, mais je la pose quand même, c'est pour développer le raisonnement.
Qu'aurait-il dû faire, Mérose?
Mérose aurait dû venir au secours de l'Éternel avec les vaillants.
Et une dernière question. Devrions-nous donc comprendre que Dieu était dépendant de Mérose alors?
La réponse, mes amis, est bien entendu que non. Dieu ne dépendait pas de Mérose pour donner la victoire à Israël, car même sans l'aide de Mérose, la victoire fut acquise. Et justement, voilà pourquoi Mérose mérita cette malédiction.
C'est donc une chose juste que ceux qui ne répondent pas à leur devoir de soutenir la cause de Dieu soient maudits pour cela. Et pourquoi?
Pourquoi?
Car l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même, celui qui a prononcé les paroles en Matthieu 12, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, est celui qui, en Juge, chapitre 5, verset 23, a déclaré, a demandé que l'on maudisse Mérose.
Matthieu 12, verset 30. Ainsi, les paroles de Matthieu 12, verset 30 se trouvent dans le verset 23 du chapitre 6, du chapitre 5 de Juges. Tout comme il se trouvait dans Josué, dans les paroles du verset 10 au verset 12, je crois.
Mérose est donc le type des croyants qui privent la cause de la vérité de leur aide. Les croyants qui privent la cause de la vérité de leur influence, de leur encouragement, de leur engagement, ou si vous préférez, leur prise de position, et ainsi que de leur argent pour faire avancer la cause de Dieu. En réalité, mes amis, du fait de leur oisiveté, ces personnes s'opposent à l'Évangile. Du fait de leur indifférence, ces personnes renient le Christ. Or, mes amis, l'indifférence revient à être ni froid, ni bouillant, mais à être tiède. Ainsi, la malédiction de Mérose rejoint donc le vomissement de cette classe de personnes par Christ. Mérose est donc un type, en quelque part, de la Odyssée. En tout cas, des personnes tièdes de la Odyssée. Ne soyons donc plus trompés, mes amis. Les chrétiens dont le cœur est partagé ont une influence plus néfaste que celle des ennemis déclarés
de la vérité.
Ainsi, ce genre de chrétien n'assemble pas avec Christ ceux qui sont typifiés par Mérose. Ce genre de chrétien-là n'assemble pas avec Christ. Ils sont donc de ce fait contre le Christ. Et voyez-vous, être contre Christ, c'est aussi agir comme le fit le roi Josaphat. Considérons quel fut le début de son règne en 2 Chroniques, chapitre 17. Rendons-nous dans 2 Chroniques, chapitre 17. 2 Chroniques, chapitre 17. Et considérons les versets 3 à 6. 2 Chroniques, chapitre 17, versets 3 à 6. Où il est dit, et l'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il suivit les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baalim, car il rechercha le Dieu de son père, et il marcha dans ses commandements, et non pas selon ce que faisait Israël. L'Éternel affermit donc le royaume entre ses mains, et tout Juda apportait des présents à Josaphat, et il eut richesse et gloire en abondance. Son cœur s'enhardit dans les voies de l'Éternel, et il ôta encore de Juda les hauts lieux et les emblèmes d'Achéra. Voilà quel fut le début du règne de Josaphat. Voilà de la manière dont il fut caractérisé. Il y a ici une description de la fidélité de ce roi à réformer, à servir Dieu. Mais à partir du chapitre 18 du même livre, il nous est rapporté l'une de ses entreprises. Et considérons et lisons 2 Chroniques, chapitre 18, à partir du verset 1er et jusqu'au verset 2 du chapitre 19. Lisons 2 Chroniques, chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2 du chapitre 19, où il est dit, « Or, Josaphat, ayant beaucoup de richesses et de gloire, s'allia par mariage avec Akab. Et au bout de quelques années, il descendit vers Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs et l'incita à monter à Ramoth de Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Viendras-tu avec moi à Ramoth de Galaad ?» Et il lui répondit, « Dispose de moi comme de toi et de mon peuple comme de ton peuple. Et nous irons avec toi à la guerre. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte d'abord, je te prie, la parole de l'Éternel. » Alors le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galaad ou y renoncerai-je ? » Et ils répondirent, « Monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, n'y a-t-il point ici encore quelques prophètes de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Et le roi d'Israël dit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on peut consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, mais toujours du mal. C'est Michée, le fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un officier et dit, « Fais promptement venir Michée, fils de Jimla. » Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Et ils étaient assis dans la place, à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient en leur présence. Alors, Sidkija, fils de Kenahana, s'étant fait des cornes de fer, dit, « Ainsi a dit l'Éternel,
Avec ses cornes, tu heurteras les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth de Galaad et tu réussiras, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Alors, le messager qui était allé, appelé Michée, lui parla et lui dit, « Voici, les prophètes prédisent tous d'une voix du bien au roi. Je te prie que ta parole soit semblable à celle de chacun d'eux et annonce du bien. » Mais Michée répondit, « L'Éternel est vivant. Je dirai ce que mon Dieu dira. » Il vint donc vers le roi et le roi lui dit, « Michée, irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galaad ou y renoncerai-je ? » Et il lui répondit, « Montez, vous réussirez, et ils seront livrés entre vos mains. » Et le roi lui dit, « Combien de fois t'adjurerai-je de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Et il lui répondit, « J'ai vu tout Israël dispersé par les montagnes, comme un troupeau de brebis qui n'a point de pasteur. Et l'Éternel a dit, « Ces gens n'ont point de seigneur. Que chacun retourne en paix dans sa maison. » Alors le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétise rien de bon quand il s'agit de moi, mais seulement du mal ?» Et Michée dit, « C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui est-ce qui séduira Akab, roi d'Israël, afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galaad ?» Et l'un répondait d'une façon et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança et se tint devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» Il répondit, « Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Et l'Éternel lui dit, « Tu le séduiras, et même, tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Maintenant donc, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voilà, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Tsidkija, fils de Kenahana, s'approcha et frappa Michée sous la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel s'est-il éloigné de moi pour te parler ?» Et Michée répondit, « Voici, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Alors le roi d'Israël dit, « Prenez Michée et menez-le vers Amon, capitaine de la ville, et vers Joaz, fils de roi. Et vous direz, ainsi a dit le roi, « Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain de l'affliction et de l'eau de l'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si jamais tu reviens en paix, l'Éternel n'aura point parlé par moi. » Et il dit, « Vous tous, peuple, entendez !» Le roi d'Israël monta donc avec Josaphat, roi de Juda, à Ramoth de Galaad. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je me déguiserai pour aller au combat. » Mais toi, revêt-toi de tes habits. Ainsi, le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Or, le roi des Syriens avait donné cet ordre au chef de ses chars en disant, « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais seulement le roi d'Israël. » Sitôt donc que les chefs des chars eurent vu Josaphat, ils dirent, « C'est le roi d'Israël !» Et ils l'environnèrent pour l'attaquer. Mais Josaphat cria, et l'Éternel le secourut, et Dieu les éloigna de lui. Et quand les chefs des chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils se détournèrent de lui. Alors un homme tira de son arc tout au hasard et frappa le roi d'Israël entre les jointures de la cuirasse. Et le roi dit au cocher, « Tourne et mène-moi hors des rangs, car je suis blessé. » Or, en ce jour-là, le combat fut acharné et le roi d'Israël demeura dans son char vis-à-vis des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Et continuons la lecture jusqu'au verset 2 du chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint sain et sauf dans sa maison à Jérusalem. Mais Jéhu, fils de Hanani,
le voyant, sortit au devant du roi Josaphat et lui dit, « Est-ce le méchant qu'il faut aider? Sont-ce les ennemis de l'Éternel que tu aimes? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi, mes amis, l'Éternel fut irrité contre Josaphat. Par son serviteur, Michée, l'Éternel fit comprendre à Josaphat qu'il n'accorderait pas la victoire à son association avec Achab. Mais bien qu'ayant d'abord demandé de consulter la parole de l'Éternel au sujet de cette association, enfin au sujet du fait que est-ce qu'il nous faut aller, et remarquez que le roi d'Israël, Achab, il propose d'abord cela à Josaphat. Et remarquez quelle fut la réponse de Josaphat. Lorsque nous lisons 2 Chroniques 18, verset 3. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Viendras-tu avec moi à Ramoth de Galaad ?» Et il lui répondit, « Dispose de moi comme de toi, et de ton peuple comme de mon peuple, et nous irons avec toi à la guerre. » Donc, il lui a déjà dit oui, Josaphat. Il lui a déjà dit oui. Mais cependant, après lui avoir dit oui, c'est étrange ça. Il lui dit, consulte d'abord l'Éternel. Mais à quoi ça sert? Tu lui as déjà dit oui. Pourquoi tu demandes de consulter après? Ainsi, bien qu'ayant d'abord demandé de consulter la parole de l'Éternel à ce sujet, et ce, en vue d'assembler, ce, en vue de guerroyer et d'avoir la victoire avec Achab, Josaphat ne tient pas compte des paroles qui lui furent adressées par Michée. Et il mit donc à exécution une entreprise humaine, un plan humain. Et dans cette affaire, mes amis, Josaphat n'assembla donc pas avec Christ, qui est le général des armées célestes. Et vous comprendrez donc que Matthieu 12, verset 30, s'applique à ce passage. Matthieu 12, verset 30, mes amis, concerne donc l'âme qui, bien qu'adhérant de manière nominale à la foi de Jésus, œuvre en désaccord avec le Christ. Mais, cependant, elle œuvre. Et pourquoi, du moins, en désaccord avec le Christ? Pourquoi cette âme est-elle en désaccord avec le Christ? C'est parce qu'elle œuvre en accord avec les ennemis de Christ, plutôt qu'avec les ouvriers que le Christ s'est choisi. Ainsi, Josaphat est le type des croyants qui œuvrent pour Dieu sans tenir compte de sa parole. Josaphat est également le type des croyants qui s'associent avec les non-croyants et les idolâtres, donc les croyants, mais idolâtres, pour mener des actions que Dieu voudrait voir accomplies uniquement par ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ces personnes qui sont typifiées par Josaphat sont comme celles qui sont typifiées par Achan, comme celles qui sont typifiées par Mérose, n'assemblent pas avec Christ, en accord avec Christ. Et elles sont de ce fait contre le Christ. Matthieu 12, verset 30, mes amis, nous dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse.
Celui qui prononça ces paroles, mes amis, c'est le Fils de Dieu, Jésus, le général des armées. Et quand il dit cette parole-là, mes amis, nous pouvons notamment, dorénavant, nous aurons à l'esprit l'histoire d'Achan. Nous aurons à l'esprit Achan. Ceux qui œuvrent au nom du Christ et qui, malgré la connaissance de la vérité, continuent à mépriser la parole. Nous aurons aussi à l'esprit Méroz. Ceux qui, bien qu'adhérents de manière nominale à la foi de Jésus, renoncent tout simplement d'œuvrer. Ils sont indifférents, oisifs. Ils ne viennent pas au secours de la cause de Dieu. Et nous aurons également à l'esprit Josaphat. Ceux qui, bien qu'adhérents de manière nominale à la foi de Jésus, œuvrent en accord avec les ennemis du Christ, plutôt qu'avec les ouvriers qu'il s'est choisi, mes amis. Et pour ces personnes-là, Jésus-Christ n'annonce pas de bien. Il leur dit, vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et pourquoi cela? Parce que vous dissipez, parce que vous n'assemblez pas avec moi. Vous assemblez selon vos plans. Et vous n'assemblez pas du tout pour certains. Vous ne faites rien du tout. Et pour d'autres, vous assemblez, mais avec les ennemis de l'Éternel. Permettez-moi, avant de conclure, de mettre des applications de comportement que l'on voit pour aujourd'hui, pour nous, mes amis. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui nous a rachetés par son sang précieux, mes amis, il demande à ceux qu'il a rachetés d'être avec lui et d'assembler avec lui. Autrement dit, il nous demande de le suivre et de le suivre entièrement, de ne pas mettre à exécution nos plans, mais de suivre son plan. Car si nous ne faisons pas cela, mes amis, nous allons mettre l'Église en danger, tout comme Achan l'a fait. Achan a mis le peuple entier en danger, mes amis. Et vous comprenez que dans ce cas-là, le camp doit être purifié, mes amis. On ne peut pas rester silencieux. On doit dire qui est-ce qui trouble le camp. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a racheté, il demande également à ce que lorsque l'on passe par le baptême, mes amis, à ce moment-là, on déclare au ciel et aux hommes que nous avons pris position pour Jésus. On déclare au ciel et aux hommes, mais également à l'armée des ténèbres, que nous combattons pour le Christ. Cependant, mes amis, il y a des croyants qui ne marchent pas là-dedans. Nous devrions normalement, mes amis, soutenir la cause de la vérité. Par notre influence, par nos encouragements, par notre prise de position ouverte, par tous les moyens avec lesquels nous pouvons soutenir l'avancement de la vérité, mes amis. Et c'est ainsi que nous serons bénis, mes amis. C'est ainsi que nous serons bénis. Et c'est ainsi que nous assemblerons avec le Christ. Malheureusement, il y a des gens qui sont comme Méroz. Ils ne soutiennent pas la cause de la vérité. En différentes manières. Et ainsi, Jésus-Christ est fâché avec eux, entre guillemets, pour ainsi dire. Il demande, il n'appelle pas la bénédiction sur ces gens-là, mes amis. Et voyez-vous, il y a également de ceux, nous devrions être de ceux qui suivent le Christ, l'agneau de Dieu, comme il l'entend. Et nous devrions collaborer uniquement avec ce qui s'est choisi. Nous ne pouvons pas nous permettre de vouloir chercher la parole de l'Éternel. Et lorsque nous lisons par l'apôtre Paul ou dans l'Apocalypse, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez !» On a entendu, mais on continue à pratiquer spirituellement de la fornication. On continue à aider et à vouloir travailler avec ceux qui œuvrent dans le camp de l'ennemi. Et voyez-vous, lorsque l'on fait cela, on n'assemble pas avec le Christ. Voici trois exemples, trois événements, trois histoires que nous pouvons tirer de la Bible qui nous montrent ce qu'est qu'assembler avec Christ, ce qu'est être avec lui. Qu'en ce début d'année, mes amis, nous puissions être résolus en nos cœurs d'être unis à Christ en assemblant avec lui. Parce que c'est là aussi l'unité, mes amis. Nous avons publié cette semaine une vidéo de notre cher frère et pasteur David Sims concernant l'unité et la perfection. Et vous l'aurez compris, mes amis, le message de ce matin se veut d'être une annexe au message du pasteur David Sims. Car dans tous les profils que nous avons vus, mes amis, Akan, Méros, Josaphat, tous ces exemples-là, mes amis, ce sont des comportements, des attitudes qui empêchent à l'unité d'arriver. Et pourquoi cela? Parce que lorsque l'on est un Akan, Méros, Josaphat, on n'est pas uni à Christ. Parce que l'on n'assemble pas avec Christ. Avec l'Église du Christ. Ceux qui sont fidèles à Christ. Et voilà pourquoi il ne peut pas y avoir d'unité, mes amis. Et donc, voilà pourquoi, mes amis, nous devons tout un chacun résoudre en nos cœurs et à toutes les âmes avec qui nous entrons en contact, à toutes les âmes à qui nous parlons de l'amour de Jésus, à toutes les âmes auxquelles nous parlons des merveilles de la croix, mes amis. Nous devons également, une fois que le moment est venu, leur dire qui sont ceux qui sont pour l'Éternel et qui sont ceux qui sont contre lui. Pour que de chasseurs de démons ignorants qu'elles peuvent être, qu'elles puissent être des disciples ayant une connaissance intelligente. Car il serait dommage que nous-mêmes ou que les âmes pour lesquelles nous œuvrons se retrouvent dans l'une des catégories que dont nous avons parlé, se retrouvent être des Akan, se retrouvent être des Méroses. Lorsque nous avons besoin d'aide, elles ne sont pas là. Lorsque la cause de Dieu a besoin d'aide, la cause de la vérité, elles ne sont pas là. Ou des Josaphats, ceux qui font de l'œcuménisme, ceux qui font de l'échange de chair, ceux qui font du travail missionnaire, ou ceux qui œuvrent pour Christ, mais avec des idolâtres. Parce que Judas était dans la vraie adoration, mais Israël ne l'était pas. Ils étaient dans une fausse adoration. Et je vais vous le dire ouvertement. Nous qui professons adhérer à l'adventisme historique, mes amis, nous sommes si on se projette dans l'histoire de Josaphat, nous sommes Judas, mes amis. Mais il y a Israël qui est idolâtre. Et Israël était beaucoup plus grand que Judas. Judas, c'était deux tribus. Et Israël, c'était toutes les autres. C'était beaucoup plus grand. Mais c'était l'apostasie, mes amis. C'était l'apostasie. C'était l'idolâtrie. Baal qu'ils adoraient. Et mes amis, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, par son prophète, j'ai eu à Josaphat, lorsqu'il a collaboré avec Israël, je suis en colère contre toi. Je suis en colère contre toi. Est-ce le méchant qu'il faut aider? Sont-ce les ennemis de l'Éternel que tu aimes? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Vous vous rendez compte, mes amis? Pourtant, Josaphat, il a bien commencé son histoire. Il a bien commencé à servir le Seigneur. Mais il s'est associé, mes amis, avec la dénomination. Josaphat s'est associé avec les adorateurs de la Trinité, mes amis. Et voilà pourquoi l'Éternel lui a dit, je suis irrité contre toi. Je fais juste là une application pour que cela puisse vous parler. Mais nous pouvons faire plusieurs applications, mes amis. Mais voilà ici ce que signifie être avec Christ et être contre lui. Voilà ce que signifie, mes amis, assembler avec Christ et disperser. Oui, mes amis. Car si nous ne sommes pas dans la catégorie de ceux qui assemblent avec Christ, tous les autres types de collecte, tous les autres types d'assemblement que nous pouvons faire seront de la dispersion, mes amis. Seront de la dispersion. C'est pour ça que si nous ne travaillons pas dans l'unité, mes amis, nous allons disperser la cause de Dieu. Alors que le Seigneur Jésus puisse nous permettre d'être unis à lui, qu'il puisse nous permettre d'assembler avec lui, afin que il puisse dire du bien, qu'il puisse dire du bien de nous, et qu'il puisse nous bénir, mes amis. Amen. Je vous invite à prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, merci, car par Jésus, tu nous as instruits concernant l'unité. L'unité avec Christ, mais une unité qui se caractérise aussi par l'unité avec l'Église, ce que Jésus-Christ a racheté par son sang, ainsi que les ouvriers que Jésus-Christ s'est choisis pour l'avancement de la cause de la vérité. Notre Père Céleste, nous désirons véritablement vivre cela. Vivre cette unité, nous désirons et être des agents d'unité, l'unité biblique, pas l'unité que veut nous vendre le nouvel ordre mondial, pas l'unité que veut nous vendre le rassemblement œcuménique des églises, non. Nous voulons vivre cette unité biblique et la seule que tu nous proposes, la seule que tu béniras, Seigneur. Merci de nous permettre d'être un avec Christ. Merci de nous instruire, de continuer à nous instruire dans toutes les parties de nos vies qui sont concernées, où nous sommes pour, où nous pouvons être pour ou contre le Christ, afin que dans tout ce que nous ferons, nous dirons, nous puissions être avec le Christ, pour le Christ, mais aussi avec le Christ, et aussi assemblés avec Jésus. Merci Seigneur. Et que nous puissions être déterminés à agir ainsi et à aider d'autres à aller d'eux-mêmes, ceux qui œuvrent pour toi, mais qui ne te connaissent pas véritablement et qui de ce fait distillent l'erreur, que nous puissions, Seigneur, avec amour, amitié, les instruire concernant la vérité, de manière à ce qu'elles puissent être des ouvriers dans, et devenir des disciples et œuvrer pour toi dans la vérité, Seigneur. Fais de nous des personnes qui soient opposées à Achan, qui soient opposées à Mérose, qui soient opposées au comportement que Josaphat a eu vis-à-vis d'Akab. Que nous puissions être véritablement unis à Christ et assemblés avec Christ. Merci Seigneur. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus, pour ta gloire. Amen.